Alors, je voudrais commencer par remercier vivement Sanjay Subramaniam pour son invitation. Il est fort probable, en fait, que si je n'avais pas assisté régulièrement au cours du lundi matin, en fait, je n'aurais jamais fait attention en tombant un peu par hasard dessus dans les archives à l'histoire que je vais vous raconter. Et merci aussi aux élèves de l'ENS à qui nous avons un peu travaillé ensemble sur ce dossier ce semestre. Constantinople, 26 avril 1796. Enfin, localement, la date était plutôt... Ah, ça marche pas. Le 18, hein, Shawwal, 1210 de l'Hégire. Et pour d'autres, on était plutôt le 7 floréal en 4. En fait, c'est selon. Toujours est-il que, ce jour-là, un long cortège, à 3h du matin... À la lueur des flambeaux, un long cortège s'ébranla dans les rues de Constantinople, quittant le palais de France à Péra. C'était la communauté française de Constantinople qui escortait en grande pompe l'envoyé extraordinaire de la République, Raymond de Verninac, vers le palais du sultan, de l'autre côté de la Corne d'Or, pour son audience publique tant attendue. Le document qui décrit la cérémonie opère comme une sorte de travelling le long du cortège. En tête, sur deux files, venaient 200 janissaires en habit de cérémonie, suivis par quelques tchoudars et un piquet de cavalerie. Plus loin, précédant les négociants et les artisans qui constituaient le corps de la nation française, proprement dit, se trouvait Verninac, l'envoyé extraordinaire donc, vêtu d'un habit richement brodé en soie et arborant non pas une, mais deux écharpes tricolores, l'une à la ceinture et l'autre sur son chapeau, sur lequel flottait aussi un panache bleu-blanc-rouge. Derrière lui, une musique guerrière jouait des airs patriotiques. Et enfin, fermant la marche, venait un détachement d'infanterie de 50 hommes, baïonnettes au canon, et un deuxième piquet de cavalerie. Témoin de la scène, le chargé d'affaires de la cour de Suède, l'Arménien Mouradja Dawson, notant que Verninac avait mis dans ce défilé, je cite, « tout l'éclat que lui procurait sa nation nombreuse dans le pays et la présence de deux frégates françaises qui mouillaient dans le port », Mouradja donc se félicitait du bon accueil réservé à cette démonstration de force cérémonielle par les habitants de Constantinople et les autorités ottomanes, aux yeux desquelles, selon lui, elle aurait eu le mérite de faire pièce aux Russes. Mais en fait, ce qui nous intéresse dans ce défilé, c'est peut-être moins l'innovation qu'il introduisait dans le cérémonial diplomatique à Constantinople que l'identité d'un des membres du cortège. Quelque part au milieu, en effet, entre les Drogmans et le premier secrétaire de légation, Pierre-Marie Ruffin, qui portait les lettres de créance de Verninac dans un riche portefeuille, défilant lui aussi au son de la Marseillaise, marchait, je cite, Ahmed Khan, fils d'un nabab des Indes. Qui était cet Ahmed Khan et que faisait-il au milieu du cortège français à Constantinople? C'est la question que se posa le sultan Selim III, qui remarqua, je cite le document, cet homme intéressant par ses malheurs et son caractère. Touché par le récit que fit le voyageur du long périple qu'il avait mené de son Gujarat natal à Paris et Londres en passant par Salonique, Marseille, Lyon, à l'aller, Livourne et Smyrne au retour, Selim fit remettre à ce coreligionnaire la somme de 5000 kourouches pour qu'il puisse rentrer chez lui. Le problème pour Ahmed Khan, c'est que le sultan ne fut pas le seul à le remarquer ce jour-là. Sa présence n'avait pas échappé au chargé d'affaires britannique, Smith, qui s'empressa d'envoyer un message d'alerte. « Attention, cet homme est dangereux », avertissait-il. « Ahmed, je cite, « is a man of very extraordinary talents with a remarkably cool head, uncommonly false and deceitful, incroyablement faux et retors. He is particularly skillful in the Oriental languages, and speaks some of the European with tolerable fluency. » Il est particulièrement habile dans les langues orientales et il est assez à l'aise dans certaines langues européennes. He is well qualified in one respect to serve the present French government, as he is not troubled with any of the religious prejudices or scruples of his countrymen, so little so that he was received a Freemason at Pondicherry. I have not been able to learn of what country he is a native, but I know that he is a Muslim. It is the opinion of the best informed persons at Paris, who are not directly in the secret, that his mission is to Tipu Sahib. Alors, qui était donc Ahmed Khan? Le voyageur fourbu et éprouvé, qui n'aspirait qu'à rentrer chez lui après un long périple, ou bien un dangereux caméléon, un musulman slash franc-maçon slash polyglotte, en mission au service de la République française et connecté aux puissances indiennes en lutte contre les Britanniques. Notez le point commun, finalement, entre les deux descriptions, qui soulignent, hein, chacune à leur manière, le caractère d'Ahmed Khan. Donc, qui était-il et que faisait-il là, dans le cortège de Verninac? Et puis, question subsidiaire, qui avait-il dans la boîte en fer blanc qu'il transportait, qui ne manqua pas de provoquer les soupçons du résident britannique à Bassora lorsque Ahmed Khan y passa 3 mois plus tard, en juillet 1796? Donc ce sont les questions auxquelles je vais m'efforcer de répondre aujourd'hui. Mais avant cela, quelques rapides considérations historiographiques. Il me semble d'abord que ce montage auquel je viens de procéder, du cortège de Verninac filmé en travelling à un gros plan sur la figure d'Ahmed Khan, pourrait être une manière finalement de définir la démarche de l'histoire connectée par rapport à l'histoire diplomatique classique. Là où l'histoire diplomatique s'intéresse aux ambassadeurs et aux intérêts des grandes puissances dont ils s'occupent, l'histoire connectée, elle, se penche plutôt sur les vies des anonymes qui naviguent entre les empires, faisant et défaisant les connexions transimpériales. De quelles connexions s'agit-il et que révèle-t-elle? En fait, la présence d'un prince indien à Constantinople n'avait rien d'extraordinaire et relève de liens assez habituels, dont on a déjà parlé ce matin, entre l'Empire ottoman et l'Empire moghol. Ce qui est plus original, en revanche, c'est que Ahmed Khan était logé chez les Français, au Palais de France. Et il faut évidemment voir là une conséquence du fait qu'il avait séjourné en France pendant environ 2 ans, d'avril 1793 à juin 1795. Et donc c'est sur ce séjour français que je m'attarderai, hein, dans la présente communication, un peu au détriment du contexte de départ, hein, qui est pourtant crucial. Que fait donc à la Révolution française la présence en France de ce prince indien? Il existe, hein, une très riche historiographie des étrangers dans la Révolution, hein, qui commence avec l'ouvrage d'Albert Mathiez, jusqu'aux travaux, hein, de Michael Rapport, en passant par Sophie Vanisch. Mais aucun d'eux, évidemment, ne mentionne Ahmed Khan. L'histoire de son séjour français rejoint en revanche une autre historiographie en plein développement, hein, celle de la présence musulmane en Europe à l'époque moderne, illustrée, hein, par les volumes collectifs dirigés par Wolfgang Kaiser et Jocelyne Daclia, certains y ont contribué, ou tout récemment, hein, le très bel ouvrage de Niall Green sur le séjour, hein, de 6 étudiants iraniens dans le Londres de Jane Austen. Dans le contexte actuel, la portée politique de cette historiographie, salutaire à bien des égards, est évidente. Ainsi, Niall Green n'hésite pas à faire du séjour fructueux des étudiants iraniens une sorte de contrepoint positif à l'islamisme radical d'aujourd'hui. Le problème est que si les étudiants iraniens de Green débarquèrent peut-être dans l'Angleterre de Jane Austen, Ahmed Khan, lui, arriva dans la France de Saint-Just et de Robespierre. C'est-à-dire un pays sous la menace de l'invasion étrangère et bientôt en proie à la guerre civile. A priori, donc, un endroit plutôt dangereux et globalement peu accueillant pour les étrangers. Sophie Vanisch, elle aussi en quête de modèles positifs dans le passé, doit bien avouer, hein, à l'orée de son ouvrage sur l'étranger dans le discours de la Révolution française, que celui-ci, hein, ce discours, n'était pas fondamentalement positif. Alors évidemment, on rêverait en quelque sorte de disposer des impressions d'Ahmed Khan, de savoir comment il interpréta les événements dont il fut le témoin. Mais il ne semble pas qu'un tel journal existe. Il faut donc se contenter des traces laissées par Ahmed Khan dans les archives françaises. Et quelquefois, sa voix transpire dans ces archives. Et donc, plutôt que des lettres persanes révolutionnaires, on a plutôt une histoire des interactions concrètes auxquelles donna lieu ce séjour dans le moment très particulier de la terreur et de la période post-thermidorienne. Alors, au passage, je tiens à signaler que je ne suis pas du tout le premier à me pencher sur ce dossier, donc qui a déjà fait l'objet de deux études, de deux historiens indiens, Mohibul Hassan et Aniruddha Roy. Donc deux études qui datent des années 70, et c'est vrai que depuis, les perspectives ont un peu changé. D'une part, évidemment, la micro-histoire est passée par là, la micro-histoire qui nous a appris finalement à transformer les curiosités en cas, et l'art de les décrire densément, et l'histoire connectée aussi, qui nous apprend à suivre les pistes par-delà les frontières culturelles, les frontières nationales et peut-être surtout, finalement, les frontières historiographiques. La question qui demeure problématique est celle de la généralisation. Que peut-on conclure du périple, à bien des égards extraordinaires, d'Ahmed Khan, qui connecte par sa trajectoire les deux grandes révolutions de l'époque, que sont la Révolution française et la conquête de l'Inde par l'East India Company? Donc c'est la question un peu en filigrane, mais d'abord il faut essayer d'en savoir un peu plus. Alors pour comprendre ce que faisait Ahmed Khan à Constantinople dans l'entourage de Verninac et ce qu'il avait amené en France, il faut opérer un flashback d'environ 25 ans et se transporter à Bharuch, Brooch en anglais, Baroche en français, un port du Gujarat, situé au nord de Surat, sur les bords de la rivière Narmada. Donc, Brooch est un port très ancien, qui a connu une grande prospérité jusqu'au XIIe siècle, qui par la suite entre en déclin relatif, mais qui reste encore prospère au XVIIIe siècle, porté par les exportations du coton gujarati qui dominait le marché mondial. La mort d'Aurangzeb en 1707, la prise de Delhi par Nadir Shah en 1739, précipite l'éclatement de l'Empire moghol et celui-ci donc fait place à de nouvelles puissances régionales. L'histoire de Brooch illustre assez bien cette dynamique centrifuge. À Brooch, un faujdar prend le pouvoir à la fin des années 1720 et parvient à établir une dynastie de facto indépendante, quoique prétend allégeance à l'empereur. Et les chefs de cette dynastie assument le titre de Nawab à partir de 1755. Néanmoins, le pouvoir des Nawabs, qui tiraient leur force principalement de leur capacité à payer des troupes à leur service, était fragile, d'autant que les appétits britanniques avaient été aiguisés par la prise de contrôle de Surat en 1759. Alors en vérité, il faut se garder de verser en fait, dans une présentation binaire des événements, parce qu'on a affaire à Brooch à une configuration particulièrement complexe qui ne met pas aux prises simplement les Britanniques à une puissance indienne, mais diverses instances au sein de l'East India Company, la cour des directeurs, la factory de Surat, la présidence de Bombay, à toute une série d'acteurs côté indien dont le point de vue nous est assez bien connu par des sources en persan ou en ourdou qui ont été partiellement édités et traduits. Donc ces acteurs côté indien, j'irai vite, mais c'est important de comprendre un peu le contexte de départ, sont le Nawab, Muazzaz Khan, qui est donc le père d'Ahmed Khan, son Diwan hindou, Lalu Das, qui l'aurait trahi, selon les sources favorables au Nawab, un autre Nawab voisin, le Nawab de Surat, un marchand parsi de Surat, qui est l'autre villain de l'affaire, et enfin, pour finir, le plus important, peut-être les Marathes, dont on a parlé ce matin, qui sont en fait la puissance dominante dans l'ouest du sous-continent, Contrairement à ce qui se passait dans l'Est, hein, où la mainmise britannique était beaucoup plus assurée. Néanmoins, les marathes sont eux-mêmes divisés, et c'est ce qui va laisser le champ libre temporairement à la présidence de Bombay. Donc on a un très beau cas, en fait, de ce dont parlait Jeffrey Parker, de sub-imperialism, en quelque sorte. Donc l'enjeu principal de la lutte à laquelle se livrent tous ces protagonistes, ce sont les juteux revenus douaniers du port de Broach. Désireux de mettre la main dessus, les Britanniques mirent le siège devant Broach une première fois en 1771, mais furent repoussés, ce qui les amena à négocier un traité avec le Nawab. Après la signature de ce traité, néanmoins, les relations se dégradent rapidement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette histoire de Broach était connue en Europe, où elle figure notamment dans l'histoire des deux Indes, où Rénal, qui la tenait sans doute en partie hein, de sa muse, Eliza Draper, hein, dont le mari était aux premières loges dans l'affaire, la raconte en ces termes. Donc, c'est un petit peu long, c'est le récit de Rénal. Les agents de la compagnie anglaise qui conduisaient les affaires au Malabar étaient rongés d'un dépit secret de n'avoir eu aucune part aux fortunes immenses qui s'étaient faites au Coromandel et dans le Bengale. Leurs avides regards, qui depuis longtemps se portaient de tous les côtés, s'arrêtèrent enfin en 1771 sur Barokia, grande ville située à 35 milles de l'embouchure de la rivière de Nerbedals qui se jette dans le golfe de Cambay, etc. 500 blancs et 1000 noirs partirent de Bombay pour s'emparer de la place sous les prétextes les plus frivoles. L'expédition échoua par l'incapacité du chef qui en était chargé. Elle fut reprise l'année suivante. Les assiégés, enhardis par un premier succès, et peut-être encore plus par une ancienne tradition qui leur promettait que leur ville ne serait jamais prise, se défendirent assez longtemps. Mais à la fin, leurs murailles furent emportées d'assaut. Durant tout le siège, la mère du Nabab n'avait pas quitté son fils, bravant comme lui le ravage du canon et des bombes. Ils sortirent ensemble de la place lorsqu'elle ne fut plus tenable. On les poursuivait. « Allez, dit cette héroïque femme au compagnon de sa fuite. » Allez chercher un asile et des secours chez vos alliés, je retarderai la marche de nos ennemis et leur échapperai peut-être. Se voyant serré de trop près, on lui vit prendre le parti si ordinaire dans l'Indostan aux personnes de son sexe qui ont conservé leur poignard, elle se perça le cœur pour éviter de porter des fers. Son fils ne lui survécut que peu. Donc c'est assez amusant de voir hein, comment Rénal fait de... Donc la mère de Mouazzaz Khan, donc si vous avez suivi la grand-mère, Tamat Khan, hein, dont j'ai parlé au début, une sorte de Lucrèce indienne finalement. Alors Ahmed Khan a-t-il vu sa grand-mère se suicider ? C'est assez peu probable, mais en tout cas c'est dans l'ombre de ce traumatisme qu'il grandit, vraisemblablement, et c'est pour faire appel de cette injustice qu'il décide, une vingtaine d'années plus tard, de quitter l'Inde pour se rendre à Londres. Donc là, il y a une petite ellipse dans mon récit, entre 1771 et 1792, qu'il faudrait combler, mais voilà. Le principal événement pendant ce temps, hein, c'est en fait que les Marathes prennent le contrôle de la ville après un traité avec les Britanniques. Alors, du coup, après cette ellipse, voici comment... Ahmed Khan, arrivé en France hein, en 1793, raconta son histoire aux autorités françaises. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir, hein, donc, c'est son récit, je vais vous le lire parce que c'est assez intéressant. Donc, c'est un de ces moments où on entend sa voix et on peut essayer de l'écouter. Je suis Ahmed Khan, indien, l'un des fils du Nabab Mouazzaz Khan, propriétaire de Baraouj. Voici l'abrégé de mes infortunes. Le gouverneur anglais de Bombay, après avoir fait la guerre à mon père, envahit son pays. Mon père mourut bientôt après cette perte. Mais aussitôt que cette invasion fut connue en Europe, le gouvernement d'Angleterre écrivit aux 10 gouverneurs de Bombay qu'il eut à restituer sur le champ les états du défunt Nabab à ses enfants. Le gouverneur n'effectua point cette restitution. Ce qui me détermina à lui signifier que s'il ne me rendait pas les pays héréditaires de ma famille, je me rendrais en Angleterre et en porterais mes plaintes directement à la cour. Ce propos comminatoire déplut au gouverneur, qui nous fit garder à vue, trois de mes frères et moi, Au bout de 5 mois de cette arrestation, nous parvînmes, tous quatre, à nous soustraire à sa vigilance et nous nous embarquâmes sur un navire arabe à l'insu de notre tyran et nous passâmes à Mascate. De là, à Bassora, à Bagdad et à Constantinople. Arrivés dans cette capitale, nous nous divisâmes. Deux de mes frères s'y fixèrent. Un autre et moi prîmes la route de Salonique où nous profitâmes d'un bâtiment qui partait pour Marseille. Les autorités constituées auxquelles nous nous adressâmes, nous fournirent une voiture pour Lyon. Mon frère y tomba malade, presque en arrivant, et sa maladie dura 1 an. Enfin, il y succomba. Je lui rendis les derniers devoirs. Après quoi, je me présentai aux représentants du peuple qui se trouvaient sur les lieux, et leur déclarait que je voulais me rendre à Paris et que je ne savais pas le français. Ils m'accordèrent une somme pour mon voyage et me donnèrent un compagnon de route qui s'entend un peu avec moi. À présent, je désirerais de pouvoir passer en Angleterre et renvoyer mon domestique à Lyon, et j'attends à cet effet qu'il me soit encore accordé la somme nécessaire à ces deux objets. C'est la vérité pure que je viens de manifester au surplus. Salut. Signé, le serviteur de Dieu, Ahmed Khan. Alors, il y a beaucoup de choses, évidemment, dans ce document qui est très riche. La première qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il s'agit d'un document traduit. La main que vous voyez est celle de Pierre Ruffin, professeur en langue orientale, ici même, comme pétis de la Croix ce matin, professeur au Collège de France et interprète au service du commissaire des relations extérieures, comme on disait à l'époque. Et donc, c'est le Ruffin dont j'ai parlé tout au début, si vous m'avez suivi, chez qui Ahmed Khan, à son arrivée à Paris, fut envoyé. Et donc, ce document est la traduction de l'original persan, que voici, qui fut rédigé à Versailles, dans la nuit du 5 Floréal en 2. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que je sais que ce document a été rédigé à Versailles ? Parce que si vous voyez, on a la date, mais on n'a pas de lieu de rédaction. Eh bien, en fait, c'est parce que Ahmed Khan et son domestique furent enregistrés ce jour-là dans les registres du comité de sûreté générale de la commune de Versailles. Donc j'ai retrouvé cet enregistrement qui dit la chose suivante. Les citoyens Amatran, indiens, négociants, et Austin, son domestique, habitant de communes affranchies, se sont présentés au comité de police et de sûreté de la commune de Versailles. Le citoyen Ruffin, demeurant rue Montboron, numéro 13, est venu déclarer que les citoyens ci-dessus dénommés devaient loger une nuit seulement chez lui. Donc Ahmed Khan a passé avec son domestique la nuit du 5 Floréal en 2 chez Ruffin. Et c'est au cours de cette nuit, visiblement, que ce récit a été élaboré. Un récit, vous voyez, qui clame être la vérité pure, mais qui en même temps a clairement une finalité, c'est d'obtenir de l'argent. C'est bien le sens de ce document à la fin. Donc de ce point de vue, la traduction opérée par Ruffin était aussi en quelque sorte une mise aux normes de la rhétorique révolutionnaire. On a ici en termes un mémoire qui est une sorte de combinaison classique du récit de vie et de la demande de pension. Alors, il y a du coup des termes qui attirent un peu l'attention. Par exemple, voyez la désignation du gouverneur de Bombay comme le tyran d'Ahmed Khan. Alors, je ne suis hélas pas capable de vous dire pour le moment à quoi cela correspond dans l'original persan. Il faudrait évidemment regarder de plus près. Mais clairement, ce choix du mot tyran est loin d'être neutre. Il visait à faire d'Ahmed Khan un réfugié persécuté par l'ennemi britannique. Alors le second point à propos de ce document, c'est que ce récit change un peu les choses par rapport à la focale que j'ai adoptée jusqu'à présent dans ma présentation, puisque je me suis beaucoup centré sur la figure d'Ahmed Khan, mais l'histoire en vérité, on le voit bien, c'est celle de l'équipée des quatre frères et de la progressive dissolution de ce groupe au fil d'un périple qui prend finalement une tournure tragique avec la longue maladie, puis le décès de Nawazish Khan à Lyon entre parenthèses, dans le contexte du siège de la ville et du bombardement de la ville par les troupes de la Convention. Le troisième point, c'est ce projet qui peut apparaître un peu naïf, finalement, au premier abord, de faire appel du colonialisme, en quelque sorte, en allant demander la restitution de Broach à la cour des directeurs de l'East India Company. Pourtant, il n'y avait rien là d'extravagant. L'historien Michael Fisher a montré comment un marchand parsi, un certain Naoroji Rustamji, s'était rendu à Londres en 1724 pour demander une compensation des malversations commises à son encontre par la présidence de Bombay, déjà elle, et avait obtenu gain de cause. Naoroji avait ainsi inauguré cette contestation par le recours à Londres, fondé finalement sur une conscience aiguë des tiraillements au sein de l'East India Company entre les intérêts de la cour des directeurs à Londres et celle des agents locaux. Et en effet, s'il ne semble pas que, je cite, le gouvernement d'Angleterre écrivit au gouverneur de Bombay qui lui a restitué Broach, comme l'écrit Ahmed Khan ou Ruffin, en revanche, on sait que la cour des directeurs avait nettement exprimé sa désapprobation de la conquête par la présidence de Bombay et de Broach, et que cette désapprobation fut remise sur le tapis dans le cadre des travaux de la commission d'enquête parlementaire créée au début des années 1780, qui allait aboutir au procès de Warren Hastings. Et en fait, la démarche était d'autant moins extravagante qu'elle aboutit, puisque précisément au moment où Ahmed Khan écrivait ce mémoire chez Ruffin, Oduddin, son frère, l'un des deux frères laissés à Constantinople, était déjà parvenu à Londres, où il avait pris un avocat, avait commencé à faire le siège de la cour des directeurs, et au bout du compte, comme il avait menacé de faire un scandale, il obtint une pension de 2400 roupies chacun pour lui et pour ses frères. Et Oduddin quitte l'Angleterre en décembre 1794, alors que Ahmed Khan, lui, était toujours coincé à Paris. Finalement, ce document fournit la trame de l'histoire et témoigne d'ores et déjà des problèmes très concrets posés par le séjour français des deux Indiens. Je signale au passage que ce document, en quelque sorte, a été efficace puisque Ahmed Khan a bien obtenu, de la part du comité de salut public, une pension alimentaire de 300 assignats par mois, qui fut régulièrement versé à Ruffin. Alors, donc, comment se passaient, pour ces deux Indiens, les interactions avec les autorités locales? Comment s'adaptèrent-ils au contexte français particulièrement troublé? Donc, c'est sur ce point que je souhaiterais consacrer le temps qu'il me reste. Ma démarche, donc, a été de suivre Ahmed Khan à la trace. Cette trace, c'est le plus souvent un nom et une origine sur un registre. Je suis Ahmed Khan, indien. Mais à Lyon, dans le registre des entrées de l'Hôtel Dieu, à la date du 26 juillet, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout en bas, là, à gauche, il n'y a qu'une origine. Vous voyez, deux Indiens dont on ignore les noms. Donc là, on a seulement l'origine, pas le nom. Ailleurs, les variations orthographiques qui affectent le nom d'Ahmed Khan témoignent sans surprise du manque de familiarité avec un tel nom chez ses interlocuteurs et du fait qu'il s'agisse systématiquement de transcriptions phonétiques issues d'une interaction purement orale. Donc dans les archives de la Chambre de commerce de Marseille, il est appelé Émétran. Dans celle de la municipalité de Versailles, Amelkan ou Amatran. Le cas le plus frappant est celui du registre des décès de l'Hôtel Dieu de Lyon, où, à la date du 11 germinal en 2, donc vous voyez, c'est à gauche, comment ça marche, entre Claudine Nanche et Jean Surcheron, vous avez Nawazishkran, Navasiskra, dont le décès donc est consigné. Pourtant, vous voyez hein, que ici, en l'occurrence, sont quand même consignées plus d'informations. Vous voyez, Navas Iskra, âgé de 32 ans, natif de Barot près Sourat, indien, arrivant en cette ville, venant de Marseille, entré le 26 juillet 1793, mort à 7 heures. Donc vous voyez que donc on a son âge, son lieu de naissance, qui montre que depuis son entrée à l'Hôtel Dieu, où finalement on n'avait aucune information, des progrès avaient été faits. C'est qu'en fait, les deux Indiens avaient pris à leur service un interprète, un certain Holstein, celui-là même hein, qui accompagne ensuite Ahmed Khan jusqu'à Versailles, et qui alors n'est plus qualifié que de domestique. Alors on en sait très peu sur ce personnage, Holstein. Il est très peu probable qu'il ait su le persan, et on peut penser que la langue qu'ils avaient en commun était plutôt l'anglais. Ruffin, d'ailleurs, évoque à un moment le mauvais anglais d'Ahmed Khan, qui pourrait permettre de communiquer avec lui de manière sommaire. Alors, Ahmed Khan arrivé à Paris, c'est bien sûr Ruffin qui prit le relais comme intermédiaire, même si Ahmed Khan eut un peu de mal, en fait, à se séparer d'Holstein. Alors Ruffin est un personnage clé, absolument clé de cette histoire, sur lequel il y a beaucoup à dire, hein, et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une très riche biographie hein, à la fin des années 20 de Henri de Hérin. Ruffin était né à Salonique en 1742, c'était un jeune de langue hein, qui avait beaucoup bourlingué en Orient, et qui avait notamment ensuite, qui s'était fixé à Paris, où il servait en fait d'interprète pour les ambassades orientales, arrivé en France, et notamment il avait servi d'interprète pour la fameuse ambassade de Mysore hein, qui est arrivée en France en 1788. Donc vous avez là un fameux tableau hein, d'Elisabeth Vigée-Lebrun qui représente un de ses ambassadeurs de 1788. Et donc Ruffin leur sert d'interprète, et en fait c'est un peu à cette occasion qu'il apprend véritablement le persan, puisqu'il explique qu'il ne comprenait rien du tout à ce qu'il disait, et que parce qu'il avait une connaissance finalement écrite du persan, mais que c'est au contact de ses ambassadeurs qu'il avait pu apprendre. Donc c'est Ruffin qui héberge Ahmed Khan hein, et qui s'occupe de lui, en fait, donc grâce à l'indemnité qui lui était versée. Et donc Ruffin, dans sa correspondance avec le ministre, à qui il rendait régulièrement compte du séjour d'Ahmed Khan chez lui, appelle souvent Ahmed Khan, je cite, le jeune musulman. Et c'est indéniablement un des aspects les plus fascinants de cette histoire, c'est d'offrir un aperçu sur la vie quotidienne de voyageurs musulmans dans la France révolutionnaire et d'observer la réaction des Français à leur passage. Alors le problème principal auquel ces voyageurs furent confrontés, et les autorités françaises du coup, c'était le régime alimentaire spécifique de ces voyageurs. Par exemple, les administrateurs de l'Hôtel Dieu de Lyon se plaignent des difficultés que cela leur causait. Je cite, « La religion qu'ils professent ne leur permettant pas de manger d'autres viandes que celles qu'ils saignent eux-mêmes, ceci rend leur nourriture très difficile dans un hôpital quand la volaille manque. » Alors, c'est un peu difficile à comprendre, mais par quoi il faut comprendre? Je pense que seule la volaille était assez maniable pour qu'ils puissent eux-mêmes, en fait, les gorger, hein, et donc c'était la seule viande qu'ils pouvaient manger, ce qui du coup revenait cher aux administrateurs de l'Hôtel Dieu. Et c'est d'ailleurs en partie en raison du désagrément, je cite, causé par, je cite, un régime alimentaire que la superstition mahométane rend très difficile, que Ruffin proposa au ministre d'héberger Ahmed Khan chez lui. L'autre marqueur identitaire de ces musulmans, c'est le vêtement. Alors, en janvier 1794, les deux frères demandent à la municipalité lyonnaise de leur payer un gilet à molleton pour leur premier hiver en Europe. Quelques mois plus tard, à l'inverse, Ahmed Khan s'inquiète d'être trop couvert pour la belle saison qui va arriver, et donc Ruffin établit pour lui une sorte de devis pour un nouveau costume d'été qui mentionne notamment, je cite, « 7 aulnes de mousseline pour son turban ». Donc on sait que, du coup, Ahmed Khan hein, se promenait en turban, ce qui n'était pas tout à fait conciliable, semble-t-il, avec le port d'un autre accessoire courant à l'époque, la cocarde. Et donc, lors de sa réception à la municipalité de Versailles, il prend soin de prévenir les autorités de, je cite, l'habitude qu'il avait contractée depuis son entrée en France de porter la cocarde sur le côté gauche de son manteau. Les musulmans, poursuit Ruffin, ne pouvant vaincre le scrupule religieux qui leur interdit toute décoration sur leur turban. Alors la principale occupation d'Ahmed Khan lors de son séjour chez Ruffin, pour tromper l'ennui et la mélancolie, ce fut d'apprendre le français. Et les lettres de Ruffin informent régulièrement le ministre des progrès de son élève. Et on a la chance d'avoir conservé les traces de cet apprentissage. Donc on possède notamment cette, je cite, « grammaire française écrite en persan par le citoyen Ruffin pour l'instruction de l'Indien Ahmed Khan, l'hôte du peuple français ». Donc c'est un document assez exceptionnel hein, qui mériterait à lui seul une analyse minutieuse pour le, voilà, à laquelle je n'ai ni le temps ni la compétence de procéder. Mais voilà, je le signale, je passe un peu vite. Autre trace hein, de cet apprentissage, les pages d'écriture d'Ahmed Khan qui s'exerce à apprendre le français en recopiant quoi ? Les fables de La Fontaine. Donc vous voyez ici, c'est de sa main pour le coup, c'est le corbeau et le renard. Alors évidemment, on peut interpréter ça de plusieurs manières. On pourrait y voir une sorte d'infantilisation peut-être, de l'élève Ahmed Khan, hein, c'est comme ça qu'il est souvent désigné, peut-être. Mais on pourrait tout aussi bien souligner la pertinence et la sensibilité d'un choix qui fait fond sur ce qu'il y avait en fait de commun entre les deux cultures littéraires en présence. Car les fables de La Fontaine, hein, on le sait, viennent pour certaines d'entre elles, hein, de celles de Bidpai, via leur traduction en arabe, en persan. Donc, c'est pas pertinent comme comparaison, mais c'était juste pour donner une idée de ça. Après les fables de La Fontaine, ou d'autres, c'est un autre morceau d'universel que s'attaquèrent Ahmed Khan et Ruffin. Dès le mois d'août 1794, donc après tout juste 3 mois de séjour et de leçons, ils offrirent au comité de salut public une traduction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, celle de 1793, traduction donc en persan, avant d'en offrir un autre exemplaire au comité d'instruction publique et un autre exemplaire encore au département de Seine-et-Oise. Et donc c'est ce document que j'ai retrouvé hein, dans les archives du département des Yvelines. Alors, la page de titre hein, de la Déclaration des droits de l'homme que vous voyez à gauche, là, est assez instructive. Vous voyez que le document est traduit par Ruffin et transcrit dans les deux idiomes par son élève, Ahmed Khan, indien. Ainsi, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ce ne sont pas les compétences linguistiques d'Ahmed Khan qui sont mises en avant, puisque la traduction, elle est de Ruffin, mais ses compétences de transcription. Sa capacité à écrire le français, à former les lettres et les phrases. Donc, il ne s'agissait pas tant d'un texte destiné à universaliser cette déclaration qu'une preuve par Ahmed Khan hein, de son adhésion à la République. Et ceci, dès lors, doit être mis en relation avec le statut légal de l'étranger dans la France de 1793-1794, qui est gouverné, ce statut, par une loi adoptée par la Convention le 6 septembre 1793 qui créait l'obligation pour tous les étrangers, qu'ils soient nés sur le territoire des puissances ennemies ou pas, d'avoir, je cite, « donné des preuves de civisme et d'attachement à la Révolution française ». Et comment on faisait pour donner des preuves de civisme et d'attachement ? Eh bien, il fallait se rendre à l'Assemblée du Conseil général de sa commune de résidence, et il fallait présenter ses preuves. Alors, qu'est-ce que ça pouvait être ? Bon, à ce moment-là, si le civisme de l'étranger était reconnu, il y avait notamment des gens qui pouvaient témoigner hein, pour un étranger de son civisme, l'étranger était admis, je cite, « au bienfait de l'hospitalité » et on lui délivrait un certificat d'hospitalité. Alors, dans le cas d'Ahmed Khan, les choses, en fait, se passèrent un peu différemment. Parce que, en fait, c'est le papier du comité de salut public, que vous voyez là, hein, donc le comité de salut public, considérant que la nation française honore le malheur, autorise le commissaire des relations extérieures à donner des secours provisoires à titre d'hospitalité à Ahmed Khan, indien, signé Barrère, Collot-d'Herbois, Robespierre, Billaud-Varenne, etc. C'est ce papier qui fut reconnu quand Ruffin l'enregistra à Versailles comme certificat d'hospitalité. Donc ce n'était pas vraiment un certificat d'hospitalité, mais puisque le comité de salut public lui-même voulait témoigner pour Ahmed Khan, évidemment ça suffisait. Mais la Convention avait beau avoir inventé, avec ce dispositif du certificat d'hospitalité, comme le dit Sophie Vanisch, une hospitalité d'un temps de suspicion, la suspicion était toujours, n'était jamais abolie définitivement. D'où l'idée, en fait, de faire ses preuves a posteriori. On n'est jamais trop prudent. D'autant que Ahmed Khan, évidemment, n'était pas le seul suspect dans cette affaire. Parce que Ruffin, anciennement au service de la monarchie, commençait, au moment où Ahmed Khan avait débarqué chez lui, à sentir sérieusement le vent du boulet. Il était soupçonné, parce qu'il avait reçu notamment le cordon de Saint-Michel, sous l'Ancien Régime, d'être un ci-devant noble, et il avait dû se défendre de l'accusation. Il avait répondu, c'est assez rigolo, « Je suis né en Turquie, où on ne connaît point de noble. » Et le 10 décembre 1793, il avait reçu la visite des commissaires du Conseil général de la Commune de Versailles qui lui firent savoir qu'il était suspect. Et donc, en fait, pour Ruffin, on comprend que l'arrivée d'Ahmed Khan était une sorte de don du ciel, finalement, qui lui a permis aussi de passer ce moment difficile de la terreur. Et c'est sans doute dans cette perspective qu'il faut interpréter certains de ses propos. Mais ça reste à discuter. Mettant en avant les progrès fulgurants de son élève, il se plut à souligner au ministre que, je cite, « un musulman écrivant en caractère français est une conquête de la philosophie. Je suis né en Turquie, j'y ai passé une grande partie de ma vie, et depuis mon retour en France, mon état et mes connaissances m'ont tenu en relation habituelle avec les mahométans. Ahmed Khan est le seul que j'ai vu sachant un autre alphabet que l'arabe. Ce phénomène était réservé à l'ère républicaine. » Donc c'est un peu surprenant quand on y pense. On a envie de dire, finalement, plus c'est gros, plus ça passe. C'est-à-dire, il est assez frappant par la suite de voir les autorités républicaines, à tous les échelons, boire ce discours comme du petit lait. Ainsi, lorsque Ahmed Khan se présente au Conseil général de Seine-et-Oise pour lui faire hommage de sa transcription des droits de l'homme, et Ahmed Khan lui-même appelle sa transcription « ses faibles caractères français tracés par une main musulmane », le président de la séance répondit tout de go « le président exprime à Ahmed Khan la satisfaction que l'administration éprouve en recevant de lui la déclaration des droits de l'homme traduite en langue persane et en voyant qu'un musulman, malgré les préjugés religieux dans lesquels il a été élevé, est par des efforts qui tiennent du prodige, appris en quelques mois à tracer des caractères français et transcrit ces vérités éternelles qui seront un jour reconnues par toutes les nations. » Donc évidemment, il y a une forme de paternalisme et d'arrogance culturelle assez typiquement républicaine. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, même très peu. Il faut quand même que je vous raconte un petit peu la suite de cette histoire, puisque je me suis concentré sur le séjour français, mais l'histoire continue. Donc, une sorte d'épilogue. Ruffin fut nommé à Constantinople en novembre 1794. Ahmed Khan ne le suivit pas directement à Constantinople. Il décida de reprendre le cours de son voyage. Et il réussit, d'après ses dires, j'en ai pas encore trouvé de traces indépendantes, mais il réussit à atteindre Londres en janvier 1795. Quand il arrive à Londres, il apprend que son frère l'a devancé et qu'il a obtenu la pension. Donc Ahmed Khan est content, et il décide de rentrer en Inde. Mais plutôt que de rentrer directement, il prend la décision, assez stupéfiante, de repasser par la France. Pourquoi ? Pour se rendre à Lyon, pour récupérer la dépouille de son frère. Et même, il semble que l'East India Company lui ait donné 400 guinées pour ce voyage de retour. Alors, comment fit-il pour récupérer le cadavre, la dépouille de son frère à Lyon ? J'en ai pas la moindre idée à ce stade. Toujours est-il qu'à partir de son passage à Constantinople, on le signale transportant une grosse boîte en fer blanc pour laquelle il obtient un firman de la part du sultan. Lorsque les Britanniques l'arrêtent à Bombay à sa descente du bateau en septembre 1796, ils étaient persuadés que dans cette grosse boîte, il y avait des documents confidentiels. Et donc, ils ouvrent la boîte et qu'est-ce qu'ils trouvent ? Les restes de Nawazish Khan. Des restes humains, en tout cas. Et finalement, ils ne peuvent se mettre sous la dent hein, que quatre malheureuses lettres, dont un billet doux d'une dame de Versailles adressé à Ahmed, la perle de l'Est. Alors, qui était donc Ahmed Khan ? C'est la question que se posèrent les Français. On se demande d'abord qui il est. Peut-être est-il un envoyé officiel ? Donc on attend, et puis une fois qu'on a son récit, bah on décide qu'il faut lui donner l'hospitalité, hein, au nom des principes républicains. Qui était Ahmed Khan ? C'est aussi la question que se posèrent les Britanniques lorsqu'ils l'arrêtèrent à Bombay et lorsqu'ils l'interrogèrent. Était-il un voyageur, un prince, un espion, un sujet britannique, comme il essaya lui-même de les en convaincre ? C'est justement cette incertitude, cette labilité de son identité qui en fait un cas intéressant. Un homme qui, si on y réfléchit, au cours de son périple, avait réussi un exploit qui est quand même pas mince, c'est d'obtenir de l'argent de la République française, de l'East India Company et du sultan ottoman. Il semble qu'il n'ait jamais déboursé le moindre liard pour faire ce voyage. Donc voilà, un homme qui avait réussi cet exploit, mais en même temps qui fut rattrapé en quelque sorte par ses contradictions, qui pour lui n'en étaient pas, visiblement, mais qui l'étaient hein, pour d'autres dans le contexte de la guerre mondiale franco-britannique. Et pour terminer, où est-ce que finalement cette histoire rejoint la diplomatie ? Tout simplement parce que j'ai trouvé les documents dans les archives du ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, à partir du moment notamment où Ahmed Khan rencontre Ruffin, il bascule en quelque sorte dans le réseau diplomatique français. Il circule dans le réseau diplomatique français. À chaque fois, à Bagdad, à Bassora, il rencontre les agents diplomatiques français. Et pour lui, visiblement, ce n'était pas un problème, mais c'est ce que les Britanniques n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait là, logé à l'ambassade de France à Constantinople ? Donc là, on a un durcissement des identités, enfin des appartenances, plus exactement, qui se joue et dont Ahmed Khan a été victime. Voilà.